Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Élection après élection, c'est la question qui arrive en tête des préoccupations des Français. Le pouvoir d'achat sera donc au cœur des 15 jours de campagne d'ici au premier tour des législatives. Le 30 juin, chacun des trois grands blocs en ont fait une priorité. Nous allons les détailler avec nos invités. Outre Roselyne Bachelot et Charles Sapin qui sont restés avec nous, j'accueille Laurence Rossignol, ancienne ministre et sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Nadia Haeck est elle aussi ancienne ministre, députée sortante des Yvelines et vice-présidente du groupe macroniste à l'Assemblée. Alexander Nikolic, qui est député européen du Rassemblement National, et Emmanuel Le Chypre, éditorialiste de BFM Business. Mais avant de débattre, nous allons découvrir cette scène un peu particulière de campagne avec Gabriel Attal cet après-midi.
Bonjour, je vous serre la main, parce que vous, vous êtes bien. Mais il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule. Voilà, c'est tout. Vous avez compris ? Ouais. Vous savez, là, c'est une élection. Là, c'est une élection législative. On prend du vote pour le Premier ministre.
Voilà. Non, comprenez-moi. Vous, vous êtes bien. Vous êtes très bien dans l'éducation nationale. Pour l'instant, ça va bien. Mais alors, le président, c'est lui qui nous fait dans la merde. C'est tout. Allez, bon. Et bon courage.
Mais sur, on compte sur vous pour le 30.
C'est à vous que je dis bon courage. C'est pas à
d'accord, mais c'est une élection législative.
Ben oui, mais pour le Premier ministre.
Voilà, ok. Allez, merci beaucoup.
Au revoir, monsieur.
Alors tout cela n'est pas anecdotique, c'est-à-dire qu'on a notre Premier ministre qui croise un éventuel électeur qui lui dit « il faut que Macron ferme sa gueule ». Pardonnez-moi de le dire une seconde fois, c'est pas très élégant, je suis pas fier de moi. Je vais vous faire remarquer quand même que le Premier ministre ne part pas, ne semble pas rentrer dans une défense très importante de son président. Moi, ça me laisse totalement pantois. Mais qu'est-ce que ça nous dit de l'état d'esprit du pays au moment où nous parlons?
C'est que c'est déjà quelque chose qu'on a compris dès le résultat des européennes, c'est qu'il y a un rejet très important du chef de l'État après 7 ans au pouvoir. Et je vais vous faire une confidence. Ce qu'on a entendu là de la bouche de ce Français, oui. Certains candidats macronistes le disent aussi. Et des députés qui sont là depuis 2017. Si vous avez des députés sortants de la Macronie, du camp du président de la République, qui s'ils veulent bien retourner à la bataille, bataille qui s'annonce très dure pour certains d'entre eux, oui. Ils ne veulent pas non plus se faire harakiri. Et nous, aux journalistes, ils nous confient. Alors, si vous voulez, la tête d'Emmanuel Macron, c'est jamais sur leurs affiches, jamais sur leurs tracts, ils ne veulent absolument pas en entendre parler. Et qu'est-ce que cela dit? Cela dit que ce pari de la dissolution d'Emmanuel Macron est en fait une faute d'orgueil. Le chef de l'État était persuadé pouvoir profiter du rejet que suscite un bloc de gauche dominé par Jean-Luc Mélenchon et un bloc de droite dominé par le Rassemblement National. Il découvre aujourd'hui que finalement ce rejet qu'il suscite lui-même, parce que 1000 milliards de dettes en plus, parce que des records sur l'immigration légale et illégale, parce que un pouvoir d'achat grignoté des Français est supérieur. Et on voit ainsi, dans les différentes projections et sondages, que le camp du chef de l'État est relégué en troisième place. Oui. Pour ces législatives qui viennent.
Il y a des choses qui viennent de loin. Il y a d'abord l'usure du pouvoir qui est absolument... On en parlait à l'instant. Non
mais, Roselyne Bachelot, pardonnez-moi, mais est-ce que vous trouvez normal que le Premier ministre n'ait pas défendu le président de la République dans cette échange,
comme ça,
même si des provocations en pleine rue, on en a tous les jours en campagne.
Il lui dit qu'il est un gars très bien et il a été choisi par Emmanuel Macron. Et puis il y a eu un bashing absolument extraordinaire. Moi, figurez-vous, je suis masochiste. J'ai regardé tous les clips de campagne des candidats.
Mais moi, j'adore ça, moi.
Ah ben, on a l'impression de voir Groland. Mais c'est à part ça...
Parfois.
Mais de toute façon, le programme, c'est le Macron bashing. Pendant toute la campagne, il n'y a eu que ça. Tout ce qui pouvait porter au crédit d'Emmanuel Macron a été passé par profits et pertes. On va parler de pouvoir d'achat, justement. Ce sera l'occasion de donner quelques chiffres. Il y a un phénomène évidemment très profond, c'est-à-dire le type qui surgit à 39 ans sans être passé par les fourches caudines habituelles, ce sentiment qu'ont eu les Français que c'était injuste quelque part qu'il soit président de la République. Et puis c'est vrai que on est dans quelque chose qui sera difficile pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on est devenu un peuple narcissique qui est incapable de penser au bien commun, parce qu'en général quand on donne une critique à quelqu'un, quand on lui donne un défaut, c'est qu'on parle de soi.
Bon, vous êtes obligé de défendre le président quand vous êtes dans la rue en ce moment ? Non, mais dites-moi la vérité.
Quand on parle de tout cela, on oublie juste de dire que c'est son deuxième quinquennat et qu'avant cela, nous avons eu deux présidents de la République qui n'ont eu qu'un seul quinquennat. Nicolas Sarkozy, François Hollande. Oui. Souvenons-nous de la cote de popularité des deux présidents qui l'ont précédé. 1 est arrivé jusqu'à 15% dans les sondages populaires. Maintenant,
ma question est, est-ce que vous vivez ce rejet du président dans votre campagne ?
Non, Monsieur Calvi, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de vivre une campagne législative. Cette campagne législative déterminera qui sera Premier ministre de la France le 7 juillet au soir. Il est normal que Gabriel Attal, qui est Premier ministre aujourd'hui, soit au devant de la scène, qui mène cette campagne.
C'est notre directeur de campagne. Vous faites campagne pour Gabriel Attal ?
Le campagne pour notre majorité présidentielle, pour avoir la majorité à l'Assemblée, pour enfin pouvoir gouverner ce pays. Contrairement aux deux blocs, oui, parce que vous êtes député à l'Assemblée nationale, monsieur ?
Non. Il est normal que le mot « enfin » fasse réagir.
Mais si je peux terminer, monsieur Calvi, parce que je suis interpellée par ce jeune homme que je ne connais pas. Pendant deux ans à l'Assemblée
monsieur
nationale...
Monsieur Nicolic est député européen du Rassemblement national.
Il ne vous aura pas échappé que depuis deux ans, nous sommes en majorité relative. Et que le bazar qui est issu de ce résultat nous a conduit à des situations extrêmement compliquées à l'Assemblée nationale. Donc là, aujourd'hui, il y a trois programmes qui se détachent. Deux programmes qui sont totalement irréalistes et un programme vide qui est le vôtre. Le mensonge, le recul en arrière, et j'en passe.
Jouer sur les peurs.
Pas sérieux. Non, ce n'est pas les peurs, c'est juste de la du réalisme. Vous êtes un parti qui s'engage au gré du vent et au gré des sondages. Voilà.
C'est intéressant d'entendre.
Vous êtes
un membre du Rassemblement
Ne m'insultez pas, je ne vous ai pas insulté. J'ai dit votre programme l'était. Je ne vous ai pas dit que vous étiez hypocrite. Peut-être que je le pense, mais en tout cas, je l'ai pas dit.
Ne faites pas semblant d'être choqué.
D'autres députés l'assument largement. On voit beaucoup de députés sortants qui ne mettent pas le logo Renaissance.
On n'a pas vu beaucoup Marine Le Pen.
Et on a vu... Pour tout vous dire, j'étais en débat il y a quelques jours sur une chaîne concurrente. Monsieur Ramos, que vous connaissez peut-être, disait,
député du MoDem,
disait, moi Emmanuel Macron, je le cache. Il ne faut pas qu'il se mette en avant.
Il a le droit de le penser.
Non, mais d'accord, mais c'est la conséquence de quoi ? C'est pas juste du média bashing. C'est la conséquence d'un bilan. Enfin, quand vous avez la sécurité qui a autant, la sécurité des Français qui est autant menacée avec.
C'est reparti.
Parce que c'est les chiffres, madame. Quand vous avez près de 200 violences sexuelles par jour, plus de 200 violences sexuelles par jour, 3 meurtres par jour, quand vous avez un pouvoir d'achat qui a diminué comme jamais. Quand vous avez un déficit commercial... commercial qui est le plus déficitaire depuis 1949. Tout ça, c'est un bilan qui est chiffré. Je parle de la dette, du déficit public, 5,5%. Il n'y a pas un pays en Europe qui a une trajectoire aussi catastrophique économique.
Laurence Rossignol, j'imagine que vous aussi, même si vous êtes sénatrice, excusez-moi, vous êtes en campagne d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on vous interpelle sur le rejet du président de la République en ce moment ? Est-ce qu'il est aussi marquant qu'on semble le dire dans ce début d'émission.
Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, il y a eu les résultats des élections européennes qui ont marqué un rejet et de la politique menée par le gouvernement et le président de la République. Et puis, il y a la décision du président de la République, le soir des européennes, de dissoudre, qui a été perçue par les Français comme une décision brutale et dangereuse. Le président de la République a dit « Moi, je vais jouer à la roulette russe avec un barillet à 5 balles et au bout du revolver, il y a la France. » Et ça n'a fait qu'accroître le désamour des Français pour le président de la République. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent, je crois que c'était Roselyne Bachelot qui disait il y a un instant, je pense que les Français, en 2017, ont adoré aimer Emmanuel Macron. Ils ont aimé l'aimer. Ils l'auraient volontiers aimé plus longtemps. Mais au bout de 7 ans d'une telle brutalité, il passe en force tout le temps. Il ne connaît que ça. Il a piétiné les institutions. Il a voulu tout exploser. Il voulait exploser la gauche. Il a voulu exploser la droite. Il a joué dimanche soir avec nous, avec notre pays. Et aujourd'hui, il s'étonne, ou je ne sais pas qui s'étonne, que les Français ne suivent pas dans ce jeu-là. Et les Français lui en veulent de les mettre dans cette situation. Et il y a de quoi lui en vouloir d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je comprends tout à fait la réaction de Gabriel Attal qui consiste à filer parce qu'il ne veut pas entamer une polémique dans laquelle il serait forcément perdant dans cette polémique-là devant les caméras aujourd'hui.
On va parler pouvoir d'achat, mais auparavant vous vouliez intervenir Emmanuel Le Chypre.
Oui, parce que fondamentalement, ça remonte à beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est l'héritier d'une série de présidents de la République qui n'ont traité aucun des problèmes majeurs des Français. Et quand vous regardez d'ailleurs les grandes trajectoires de l'économie française, aucune n'a été infléchie ni par Nicolas Sarkozy, on ne parle même pas de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, etc. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qu'il paye aujourd'hui Emmanuel Macron ? Il paye 40 ans... Alors qu'il a peut-être, par exemple, sur le marché du travail, honnêtement, il a un bon bilan. Il a un bon bilan en termes d'emploi. La réalité, c'est qu'il paye 40 ans de délabrement du logement, 40 ans de délabrement des services publics, de l'hôpital, de l'école, de la sécurité, de la justice. Et quand les Français voient finalement ce quotidien, parce que le quotidien, c'est pas l'obsession du pouvoir d'achat, elle est réelle et il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Mais quand c'est votre bien-être au quotidien qui est aujourd'hui totalement laminé par le fait que vous n'avez plus de médecin. Si, Roselyne, il y a des tas d'endroits. Mais même en Ile-de-France, essayez de trouver un médecin où vous êtes reçu normalement à l'hôpital, où ça fonctionne normalement. Regardez les problèmes à l'école. C'est ce que je dis, Roselyne.
Vous ne pouvez pas nous décrire la Roumanie. Emmanuel, vous ne pouvez pas nous décrire la Roumanie à 20 ans.
La personne qui a lancé l'abaissement du numéro clausus, c'est Simone Veil.
Et pardon à tous les Roumains qui nous entendent.
Mais attendez, on n'a jamais. Alors, on va être très clair, on va reprendre les choses. On n'a jamais été aussi mal éduqué. On n'a jamais été aussi mal soigné. Et là, je parle d'accès aux soins. Je ne parle pas de plateau qualitatif des hôpitaux qui sont très bons. On n'a jamais été aussi mal soigné. On n'a jamais été aussi mal protégé, etc.
C'est pour ça que l'espérance de vie augmente.
Il y a une responsabilité personnelle du chef de l'État.
L'espérance de vie augmente. D'accord. Ce que je veux dire.
Non, mais attends, c'est faramineux.
Jamais un président de la République n'a autant endetté le pays.
Non, mais ça. Entièrement d'accord là-dessus. Je vous dis, attendez, je ne suis pas en train de vous défendre, Emmanuel Macron. Je suis en train de vous dire que le quotidien des Français.
Je ne vais pas arriver à parler de pouvoir d'achat.
Ils souhaiteraient améliorer.
C'est quand même la principale préoccupation.
Il faut les comprendre. Ils ont pensé qu'avec un président énergique de droite, ça s'arrangerait. C'était Nicolas Sarkozy. Ça n'a rien changé. Qu'avec un président plus rond de gauche, ça s'arrangerait. Ça n'a pas changé. Avec un jeune dynamique qui était Emmanuel Macron, ça n'a pas changé. Il faut comprendre aujourd'hui qu'ils en aient ras-le-bol.
Tout est de ma faute. J'ai dégoupillé le chip. J'aurais pas dû. Début d'émission.
Oui, c'est ça.
Alors, d'autant plus qu'on va avoir besoin de lui dans quelques instants. Je commence avec vous, Nadia. On parlera de l'énergie dans quelques minutes, mais tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de l'amélioration du quotidien des classes moyennes. Vous proposez d'élargir la prime Macron. Expliquez-nous, en quelques mots.
Oui, la prime Macron a déjà été décidée pendant les différentes crises que nous avons traversées. Je pense qu'il faut aussi rappeler ce qu'a traversé notre pays. Une crise liée au Covid, une crise inflationniste sans précédent. Donc moi, je veux bien qu'on remette tout sur le dos d'Emmanuel Macron sur l'augmentation notamment de la dette.
La Cour des comptes a fait un rapport qui montrait qu'il y a une responsabilité mineure dans le Covid dans l'endettement du pays.
La
dette Covid, c'est mon
Non, mais attendez. Alors, allons-y, continuons. Faites ce que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire balancer des informations, mais ne pas avoir un raisonnement complet.
Allez au bout de votre raisonnement,
s'il vous plaît. Juste pour avoir un raisonnement complet, nous avons traversé des crises et il a fallu protéger les Français. Le quoi qu'il en coûte, personne ici n'a bronché. Le chômage partiel, personne l'a remis en question. L'accompagnement des entreprises, personne l'a remis en question. C'est pas ça, c'est quoi alors? Le fonds de solidarité, il a coûté des centaines de millions d'euros au pays. L'accompagnement également sur le chômage partiel, il a coûté des centaines de millions d'euros pour notre pays.
Et c'est financé par la dette. Il n'y a pas de dépenses, il y a les recettes.
Maintenant, la prime Macron, M. Calvi, pour y revenir, c'est pour permettre aux entreprises. Aujourd'hui, il y a 6 millions de Français qui sont bénéficiaires de la prime Macron qui est plafonnée à 3 000 euros défiscalisée sans charge sociale. Eh bien, l'objectif, c'est de permettre à l'entreprise de redistribuer davantage. Il a été beaucoup question des super profits où les entreprises ont fait énormément de profits durant la crise. Eh bien, nous allons voir celles qui distribuent et celles qui ne distribuent pas. La prime Macron permet de redistribuer davantage.
Qui la reçoit aujourd'hui, cette prime Macron?
Il y a 5 à 6 millions de salariés qui la reçoivent aujourd'hui et alors pas pour un montant...
Donc c'est un phénomène majeur.
Oui, mais...
le montant moyen, c'est 865 euros.
Exactement. Voilà. Donc elle est pas redistribuée. Effectivement, ce n'est pas les montants de 3 000 euros, 4 000 euros. Et là, un plafond à 10 000 euros. L'idée que je trouve intéressante,
mais avec de la CSG,
c'est la mensualisation. Oui. Non, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'à la différence, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence du programme du Rassemblement national ou du nouveau Front populaire, c'est qu'effectivement, chez Emmanuel Macron, on distribue de l'argent qu'on n'a pas, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, celle-là, c'est les entreprises qui vont payer. Sur l'électricité, c'est les prix de marché qui baissent.
Vous nous dites que le président Macron est très généreux avec l'argent des autres.
Redistribuer de l'argent qu'on n'a pas, il y a quand même beaucoup mieux dans les programmes qui nous sont
censés. On parle d'électricité. Moi, j'ai une question vraiment concrète. Depuis 2014, le prix de l'électricité a augmenté en France de 71%. Depuis 2 ans, c'est 40%. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui a entraîné ça?
Attendez, l'électricité, j'y viens dans un instant. Non,
c'est pas vous. Qui fait le débat. C'est lui l'animateur.
Je vous promets
vous,
qu'on arrive à l'électricité dans un petit instant. Auparavant, le SMIC avec Laurence Rossignol. Parmi les mesures phares du Front populaire sur ce thème, il y a le passage au SMIC à 1600 euros net et indexé sur l'inflation. Nous sommes bien d'accord. Qu'est-ce que vous faites pour les salaires de ceux qui sont légèrement au-dessus du SMIC?
Eh bien, il y aura des négociations, il y a l'échelle mobile des salaires, il y aura des augmentations. Mais par ailleurs, sur le SMIC, moi, je veux bien que tout le monde s'émeuve du SMIC à 1600 euros. Moi, ma place dans la vie politique française, c'est la condition sociale des femmes. 60% des salariés au SMIC sont des femmes.
Oui.
Elles sont dans des emplois qui sont le plus souvent dans lesquels les femmes sont concentrées, qui sont les moins bien rémunérées et bien souvent les plus dures. Pour augmenter les salaires des femmes, qui en plus pour 30% des familles sont des femmes seules, pour elles, il faut augmenter le SMIC. Et qu'on ne vienne pas m'expliquer que l'augmentation du SMIC, ça va mettre le pays en danger. Ce n'est pas vrai. C'est la première mesure qu'il faut prendre pour rehausser la condition sociale des femmes. Mais je vais dire à madame et aussi à monsieur, on ne parle que de dépenses, mais dans le bilan du président Macron, il y a aussi la question des recettes, quand même. Quelle a été la première chose qu'a fait Emmanuel Macron en arrivant? Il a installé la flat tax, il a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune en le transformant en IFI, et il nous a fait l'histoire du ruissellement. Donnons beaucoup plus d'argent à la finance et ça va ruisseler, le bilan, ça va ruisseler, parce que c'était bien avant le Covid. Qu'est-ce qui déjà a considérablement affaibli et affecté l'image du président Macron? C'est qu'il est devenu le président des riches. Et il paye depuis cette image de président des riches qui n'est pas une image injuste, qui est le choix de sa politique. Et cette politique-là, elle n'a pas produit de pouvoir d'achat pour ceux qui en ont besoin.
Roselyne Bachelot.
D'impôts en plus cet été, vous ne serez pas vu comme...
Il y a deux choses. Il y a le pouvoir d'achat et l'emploi, parce que c'est étroitement lié. Il y a une politique économique qui a été menée... qu'on a appelé pro-business, qui est peut-être pas une formule très heureuse parce qu'on pourrait parler français, mais effectivement, qui a fait que le chômage a baissé de 2 points, 9,6% de chômage et on est tombé à 7,6. Il y a eu 2 millions d'emplois créés, il y a eu un effort massif sur l'apprentissage. Donc vraiment, il y a eu des mesures tout à fait significatives.
On n'a pas connu ça dans le pays depuis des années.
Et on n'avait pas connu ça. Effectivement, ça a été fait aussi grâce à un certain nombre de mesures favorables favorable à l'entreprise. Vous avez parlé de la flat tax, la suppression de la CVAE ou des mesures qui ont suivi d'exonération de charges sur qui faisait la suite du CICE. Mais il y a aussi, et c'est le plus important, des baisses d'impôts qui ont favorisé les ménages. Il y a 30 milliards d'impôts en moins avec la suppression de la taxe d'habitation, la suppression de la redevance télé, la réforme du barème de l'impôt sur le revenu. Enfin, les chiffres sont là, et je parle sous le contrôle d'Emmanuel Le Chiffre. On a une augmentation du pouvoir d'achat dans ces dernières années qui est en moyenne de 0,5% en France. C'est le double de l'Allemagne.
Chiffres. Dorénavant, vous êtes Emmanuel Le Chiffre. Vous avez entendu ce qui veut dire votre référence. Pardonnez-moi, je veux qu'on entende tout le monde sur un point précis. Alexandre Nicolet, le RN veut inciter les employeurs à augmenter les salaires jusqu'à 10% en exonérant les hausses de cotisations patronales. Est-ce que vous croyez que les entreprises peuvent jouer le jeu?
Mais évidemment, parce que...
Je serais salarié, je serais pour.
Ce que propose le Front Populaire, c'est... ça vient d'être dit, c'est le SMIC à 1600 euros, avec des cotisations patronales et salariales qui vont augmenter et avec une contrainte sur les entreprises. Ça va peser sur la compétitivité des entreprises, ça va entraîner des centaines, voire des milliers de faillites d'entreprises, il faut en avoir conscience. Et donc c'est évidemment irréel, irréalisable. Quand vous parlez de blocage des prix, c'est la grande mesure aussi qui est évoquée, mais ça ne marche pas comme ça l'économie. Mais
10% d'augmentation pour tout le monde, c'est réalisable.
Et laissez-moi finir.
Comme Bruno Le Maire, mais c'est pas réalisable, vous savez, les prix, ça
quand on parle de cette mesure justement d'augmentation de 10%, on ne contraint pas les entreprises, on les incite en exonérant les entreprises de cotisations patronales et salariales sur cette augmentation pour ne pas que ça les pénalise, pour que ça te permette d'augmenter les salaires et qu'on augmente la consommation. Enfin, c'est évidemment un cercle vertueux. Quand on parle d'économie quand on parle aussi de pouvoir d'achat des Français sur l'énergie, quand on dit que immédiatement, on baissera la TVA sur 100 produits de première nécessité et surtout sur les produits énergétiques en descendant à 5,5. C'est pour dégager immédiatement du pouvoir d'achat aux Français. Et quand on propose de
réformer... Ça coûte combien, monsieur? Ça coûte combien?
12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros qui seront compensés. Non, mais qui seront compensés parce qu'on propose, par exemple, en matière d'immigration, Monsieur Gourevitch, qui estime à 50. Ah.
Dites-nous l'immigration. Vous proposez quoi?
Non, mais par exemple, de préserver le modèle social français. Vous voyez, en faisant en sorte que le modèle social français soit réservé aux Français et pour une certaine partie,
vous,
par exemple,
RSA, ne vous laissez pas provoquer les étrangers parce que je veux
qui ont travaillé et cotisé pendant 5 ans. Et autre chose que vous ne faites pas sur l'énergie, quand je parlais tout à l'heure d'augmentation du prix de l'énergie qui ne correspond pas à une augmentation du prix de notre production. Vous ne... Non, mais je réinterpelle sur ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché européen de l'énergie. On se soumet à ce que veut l'Allemagne.
Non, on y va. Laissez-moi. Je vais vous aider, vous allez le voir. À propos de l'énergie, chacun des trois blocs a sa mesure pour faire baisser donc la facture d'électricité. Et ce que nous allons voir dans cette séquence avec les éclaireurs. Bonsoir, Karine de Ménonville.
Bonsoir, Yves.
Malgré les mesures de protection, la facture d'électricité des Français a littéralement flambé.
On va partir d'un constat tout d'abord sur lequel tout le monde sera d'accord. Depuis la crise du Covid et la guerre en Ukraine, la facture d'électricité pour les Français, elle a explosé. On ne mesurait pas à quel point sans regarder ce chiffre. Plus 51% les factures depuis 2019. Ce n'est pas anodin. Et c'est un coup très dur pour le budget des Français puisque selon les chiffres du médiateur de l'énergie aujourd'hui, un ménage sur trois a des difficultés pour payer ses factures d'énergie. Un sur deux, si on prend les moins de 35 ans. En 2020, c'était 18% seulement, c'est dire le changement. Alors du coup, c'est un enjeu dans cette campagne, on l'a bien compris, avec des propositions diverses. Du côté du Rassemblement national, on propose donc cette baisse de la TVA de 20% à 5,5%. Une demande de dérogation au marché européen de l'électricité. Et selon le Rassemblement national, ça donnerait une baisse de 30 à 40% du prix. Du côté du nouveau Front populaire, on propose de bloquer les prix de l'énergie et d'annuler la dernière hausse de 10% des prix de l'électricité intervenue le 1er février. En ce qui concerne la majorité présidentielle, annonce faite par Bruno Le Maire en personne, il promet des tarifs de l'électricité moins élevés. Mais alors pour lui, c'est à venir. C'est en février 2025, 10 à 15% de moins. Pour être complet, il faut dire que cette baisse de 10 à 15%, ce n'est pas un engagement très difficile à tenir, compte tenu de la baisse des prix du marché qui a été observée ces derniers mois. Je vous les donne. Désormais, les contrats d'achat d'électricité à terme pour l'année 2025, ça se négocie à 73 euros le mégawattheure. Il faut savoir qu'en 2024, c'était 90 euros et en 2023, 146 euros.
Merci beaucoup, Karine de Ménonville. Alors, Emmanuel Le Chypre, Jordan Bardella veut un prix français de l'énergie, on a commencé à l'aborder, basé uniquement sur la production tricolore qui permettrait en fait de faire baisser les factures de 30 à 40% pour les ménages français. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste?
Alors, ce serait surtout une erreur historique. Puisque on est en train de revenir sur le marché européen de l'énergie à la normale, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a eu, effectivement, une période où il y a eu, pour tout un tas de raisons, une explosion des prix sur le marché européen, notamment à cause de l'augmentation des prix du gaz. Et comme vous savez que le prix de l'électricité, in fine, il dépend du coût de production de la dernière centrale que vous appelez pour produire, et ces centrales sont au gaz. Donc les prix du gaz et l'électricité sont intimement liés. Ce qu'on voit, c'est que tout ça est en train de revenir à la normale. Le prix du gaz, il est deux fois plus bas qu'en 2023, il est trois fois plus bas qu'en 2022. On est encore un peu plus cher qu'avant le Covid, mais voilà, on devrait rester à ces niveaux-là. L'électricité revient à son niveau d'avant Covid. Et surtout, sur le nucléaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nucléaire qui se dessine, le nucléaire qu'on est en train de lancer, qu'Emmanuel Macron a lancé et que le Rassemblement national veut aller encore plus loin, c'est un nucléaire dont le coût de production sera beaucoup plus élevé que le coût de production du nucléaire actuel. Au moment,
on va faire du nucléaire plus cher.
Au moment où le coût des énergies renouvelables est, lui, en train de baisser. Donc aujourd'hui, dire qu'on va tout miser sur le parc nucléaire et que ça va nous faire une électricité moins chère, je pense qu'à l'horizon des années où on va voir rentrer ce parc nucléaire en production, on risque d'être extrêmement, extrêmement surpris. Et je rappelle enfin que depuis quelques trimestres maintenant, c'est-à-dire que depuis que notre parc nucléaire a recommencé à produire à son rythme à peu près habituel, EDF gagne énormément d'argent en vendant notre nucléaire sur les marchés européens.
Charles Sapin, est-ce que les trois grands blocs qu'on évoque sont en gros sur la quasiment aujourd'hui tous des pro-nucléaires?
Oui, c'est vrai que c'est...
Excusez-moi, mais c'est une révolution dans la vie politique française.
Non, pas la gauche.
La gauche, en fait,
ça dépend de quelle gauche.
Voilà,
ça
dépend
de quelle gauche. Il n'y a que le PCF.
C'est Charles qui répond.
C'est tout le problème du programme.
Sur cette gauche, c'est vrai qu'il y a l'assemblage, c'est l'association de la carpe et du lapin. C'est vrai que c'est très compliqué de répondre pour le bloc de gauche.
Le Parti communiste a toujours été à fond pour le nucléaire, ça c'est sûr. Mais alors les autres?
Mais les autres, bah, on se souvient d'un virage assez spectaculaire pour ce qui est d'Emmanuel Macron, qui a la première partie de son quinquennat avec comme ministre de l'écologie Nicolas Hulot, qui en fait continuait ce programme de fermeture des centrales nucléaires et finalement a eu un réveil et s'est dit non, finalement on va investir.
Boum, badaboum.
Exactement, comme vous dites.
Une centrale.
Et donc ces deux blocs aujourd'hui, Rassemblement National et Emmanuel Macron, disent peu ou prou la même chose, c'est-à-dire que pour notre souveraineté et pour des questions de prix, il faut continuer d'investir et reprendre le plan jadis du général de Gaulle sur le nucléaire. Après, la grande différence entre ces trois blocs, c'est que vous avez un bloc à droite dominé par le Rassemblement National qui a un programme, vous avez un bloc à gauche dominé par la France Insoumise qui a un programme également, et finalement, le camp Macron, lui, a peut-être un programme, mais ce qui ressort surtout, c'est un bilan.
Est-ce que je peux...
Oui.
C'est-à-dire que la baisse sur les carburants, sur le gaz, sur toutes les formes d'énergie, évidemment, c'est une perte de ressources pour l'État. Mais au-delà, quand même, c'est une mesure qui profite d'abord essentiellement aux plus riches, hein, parce que de baisser les taxes sur les carburants, c'est surtout les propriétaires de grosses voitures qui vont en bénéficier. S'il fallait faire une mesure de pouvoir d'achat, faudrait mieux faire un chèque énergie pour les plus modestes que de faire une baisse globale sur les produits énergétiques. Je dis deuxième point, quand même le grand problème de cette période, c'est quand même l'environnement. C'est là. Personne n'en parle, mais c'est quand même l'éléphant dans la pièce, c'est la lutte contre les gaz à effet de serre. Or, comme mesure d'incitation à faire du tout bagnole et à rejeter des gaz à effet de serre, alors là, on a quand même trouvé mieux que de baisser les prix de l'électricité.
51% des émissions de gaz à effet de serre sont dues aux importations, madame. Si on veut vraiment baisser les émissions de gaz à effet de serre, il faut faire en sorte, justement, qu'on produise plus en France. Et c'est pendant
non,
le...
Mais, et surtout qu'on ne consomme pas des produits pétroliers.
Mais bien sûr, mais madame, c'est la principale cause, c'est ce que je vous explique. C'est que si, et le gouvernement qui, depuis 7 ans, je le disais, a entraîné un déficit commercial qui a été de plus en plus important, et la question de l'énergie, elle est liée à ça, puisque notre compétitivité, elle a été entravée aussi par le prix de l'électricité qui a augmenté et la compétitivité des entreprises françaises et de l'industrie française. Et quand vous avez des normes et des exigences de normes qui sont parfois avec une juxtaposition encore plus, donc on demande encore plus on est encore plus exigeant avec les entreprises françaises, on les pénalise encore plus, et on donc, et alors qu'au départ ça passait pour des mesures écologiques, et donc ça crée encore plus d'importations, ce qu'on a subi et ce qu'on subit de plus en plus avec le gouvernement, avec
Nadia, monsieur vous répond, et je veux entendre Laurence Rossignol avant de nous séparer.
Moi, ce raisonnement du Rassemblement National, je n'arrive pas à le comprendre. Vraiment, je vous dis très sincèrement. Aujourd'hui, il y a le marché européen de l'électricité. Oui. On n'est pas une petite île déserte et on vit tout seul. On vit dans un continent et nous sommes une Union européenne. Oui. Donc, il y a de
l'électricité à Guernesey, hein, je vous rassure.
Et c'est fort, fort heureux pour eux. Mais on vit dans un marché européen d'électricité. Je sais que vous voulez en sortir.
On veut réformer.
Non, vous voulez en sortir. Vous voulez déroger. La dérogation, c'est que vous n'acceptez pas les règles du marché européen.
Oui, parce
c'est
que ça nous pénalise. Et déroger. Que les Français et les entreprises
Mais c'est pas possible. On peut en placer une ici ou pas? Est-ce qu'on peut en placer une avec vous? Non, mais il y a un marché européen d'électricité. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est décorréler les prix des combustibles. Et c'est exactement ce qui était la réforme qui a été menée, qui a été votée, que vous n'avez pas votée. Pourquoi? Parce que vous voulez sortir du marché européen d'électricité et donc vous retrouvez tout seul. Et pendant la crise, celle que nous avons vécue, ne pas avoir cette bénéficier de la solidarité entre les pays européens. La baisse de la TVA que vous proposez, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi c'est une fausse bonne idée?
Allez dire ça aux Français.
C'est une fausse bonne idée parce que vous allez baisser la TVA, vous allez en mettre plein les poches chez les producteurs et le consommateur final ne bénéficiera pas de la baisse des prix. Ça a été tenté par le passé, ça n'a pas marché. L'exemple, la TVA sur la restauration. Donc voilà. À ce moment-là, vous savez, la France, elle n'existe pas depuis qu'il y a Marine Le Pen et depuis qu'il y a Jordan Bardella. Il y a une histoire et il y a des choses qui ont été tentées. Ça n'a pas marché. Laurence, vous faites quoi? Vous reprenez les idées, vous les arrangez à votre sauce et vous en faites un programme.
C'est Laurence Rossignol, s'il vous plaît. Laurence Rossignol, en matière d'énergie... Que proposez-vous aux Français? Comment on fait baisser la facture? Et est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de faire baisser la facture?
En fait, il y a le mot énergie renouvelable, n'a été prononcé qu'une seule fois dans ce débat, et c'était par Emmanuel Chiffre, à un instant.
On a voté le loi chiffre. Dessus, Madame Rossignol, ensemble d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, avec les socialistes.
Oui, attends, Ne me faites pas ce que vous reprochez aux autres de faire. Chez le Rassemblement national, il y a un impensé et un déni. Le déni, c'est celui du défi environnemental et climatique. Non. L'impensé, c'est la politique énergétique que l'on doit mener pour à la fois permettre aux Français de se chauffer, de se déplacer, et en même temps réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Et je ne crois pas que le tout nucléaire, tout le monde sait qu'à gauche, on a des discussions, mais oui. Même si on n'a pas de discussion à gauche, personne ne peut aujourd'hui faire le choix du tout nucléaire. C'est un choix qui est irresponsable. Et c'est le choix qu'ils font, parce que moi je les connais sur le terrain.
Ils Rassemblement National.
Je les ai montrés. Ils font, monsieur fait avec ses amis du Rassemblement National. Oui. Moi je les connais sur le terrain. Ils sont systématiquement hostiles à toute construction, tout investissement en matière d'énergie renouvelable. Ils font du populisme sur l'énergie renouvelable. Ils nous amènent dans le tout nucléaire. Ce n'est pas une politique énergétique sérieuse pour une planète qui est en train de mourir de chaleur.
C'est la moins chère qui nous a permis de garder notre souveraineté. Et la seule année où on a justement eu un problème avec des centrales, avec de la corrosion, en 2022, on a été déficitaire de 17 milliards sur l'importation et exportation d'électricité.
On vous a compris, c'est terminé.